Bruno Terre, très bonjour.
Bonjour.
Dans La guerre des mondes, vous analysez l'affrontement mondial qui se dessine non pas entre des blocs comme pendant la guerre froide, mais entre ce que vous appelez une famille occidentale, plutôt libérale, et une famille eurasiatique autoritaire. Vous écrivez que les années 2020 sont bien parties pour incarner un début de tournant géopolitique, un de ces tournants qui ont marqué l'histoire mondiale. Votre livre a été publié avant le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas. Mais comment s'insère cette guerre dans votre narratif d'une guerre des mondes ?
Ce qui se passe depuis le 7 octobre, quelque part ça s'insère dans cette grille de lecture puisque nous avons bien un pouvoir extrêmement autoritaire. Il faut se rappeler la férule extrêmement sévère du Hamas sur la bande de Gaza et sur ses habitants. Et de l'autre côté, une démocratie certes très imparfaite et dirigée actuellement par des gens assez peu fréquentables, mais tout de même une démocratie. Et on voit d'ailleurs dans le débat très douloureux qui existe sur est-ce que les civils sont visés directement ou pas, forcé de constater qu'on a d'un côté certains mouvements palestiniens extrémistes dont le Hamas qui tirent délibérément pour toucher des populations civiles, voire pour les massacrer comme le 7 octobre. Et du côté israélien, je peux vous assurer que même si ce n'est pas visible, on prend généralement, je dis bien généralement, des précautions importantes pour avertir et pour ne pas, surtout pas, taper directement, comme on dit en langage militaire, sur les populations civiles. Donc on retrouve quelque part ce clivage que je décris et qui va, à mon sens, caractériser notre monde dans les années qui viennent.
Justement, dans votre livre, vous écrivez qu'il faut savoir contrecarrer le narratif des ce que vous appelez les néo-empires, donc que sont la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie. Cette guerre entre Israël et le Hamas ne met-elle pas l'Occident, justement, ou les Européens, en tous les cas, en difficulté vis-à-vis du Proche-Orient, vis-à-vis de ce système de valeurs qui est si souvent décrié par les régimes autoritaires? Et on voit bien que les opinions publiques du Moyen-Orient la renvoient notamment aux Européens, leur discours sur le droit international, sur les droits de l'homme, sur la liberté d'expression.
Alors, d'abord, rappelons que ce clivage, il traverse les sociétés occidentales elles-mêmes. Et si nos sociétés sont si divisées et fracturées à propos de l'affaire de Gaza, c'est parce que, justement, nous sommes des démocraties dont nous permettons cet espace de débat. Alors, on peut répondre par plusieurs types d'arguments à ce discours qu'on entend effectivement assez souvent dans ce qu'on appelle le Sud global. Moi, j'aime pas du tout cette expression, on en parlera peut-être.
Donc les pays émergents.
Tout à fait, les émergents et les pays qui en développement, pas seulement les émergents. On peut d'abord répondre que Israël n'est pas la Russie et que Tsahal n'est pas l'armée de Vladimir Poutine. Autrement dit, on a d'un côté la Russie qui agresse l'Ukraine, qui n'avait rien demandé, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est véritablement un projet d'agression et de destruction. Et de l'autre, un État, Israël, qui se défend certes de manière probablement trop brutale, mais qui reste conforme au droit de légitime défense. Il faut rappeler des choses aussi simples que cela. Et donc, je pense qu'il faut absolument réfuter l'équation Israël égale Russie. Deuxièmement, le fameux deux poids, deux mesures qu'on entend beaucoup
dans le monde arabe.
Je pense qu'il est valable, il est valable aussi, on peut le retourner vers le monde arabe, vers le monde musulman et de manière générale, d'ailleurs, vers le sud global. Je pense que, d'abord, la politique internationale, quel que soit le pays, n'est jamais parfaitement cohérente. Ensuite, je trouve assez curieux qu'on nous reproche, nous occidentaux, un deux poids deux mesures, alors que, permettez-moi de le dire un peu crûment, la cause palestinienne, à peu près tout le monde s'en moquait dans les dernières années jusqu'au 7 octobre. Il faut quand même se rappeler que les plus grands massacres de population palestinienne dans les 10 dernières années ont été commis par la Syrie. La Syrie pendant la guerre civile syrienne. Vous voyez, donc, je pense que le deux poids deux mesures, il est en partie réversible. Et puis, je crois aussi que le discours permanent sur la repentance nécessaire de l'Occident, parce que nous serions responsables de tous les malheurs du monde, qui est tentant pour certains acteurs du jeu mondial, que la Chine et la Russie adorent, hein, parce que l'Occident coupable de tout, ça les arrange bien.
Discours.
Mais je trouve que finalement, quand nous reprenons, nous occidentaux, ce discours à notre compte, bah, quelque part, c'est une forme d'ethnocentrisme, d'égocentrisme, comme si nous faisions tout dans le monde, et comme si nous y étions à la fois responsables de tout ce qui se passe bien et de tout ce qui se passe mal. Je ne crois pas que ce soit le monde de 2023. Donc, pour toutes ces raisons, je crois que c'est un discours qu'il faut effectivement relativiser, voire parfois contester vigoureusement.
Alors, voyons le monde que l'on vit en ce moment, puisque au début de votre ouvrage, vous vous interrogez sur les similitudes avec des crises passées. Vous vous demandez si nous sommes dans les années 1910, donc ce serait donc à la veille du grand choc des empires et donc à la veille de la la Première Guerre mondiale. Dans les années 30, face à la montée des totalitarismes agressifs, donc avant la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt dans les années 50 avec la guerre froide. Et en conclusion, on comprend que la période actuelle serait donc plutôt un mélange de toutes ces crises.
Exactement. Nos années 20, c'est à la fois les années 10, les années 30 et les années 50. La formule peut paraître facile, mais je crois véritablement qu'il y a quelque chose de réel dans cette hypothèse. Ça n'est pas tout à fait la guerre froide, mais ça y ressemble quand même un peu, parce qu'au début des années 1950, on avait le sentiment justement d'être au début d'un grand affrontement qui serait sans doute pacifique. Heureusement, il y a eu la dissuasion nucléaire qui, entre autres facteurs, ont permis de limiter les risques de conflit. Mais on est aussi dans des logiques de choc néo-impériaux, comme dans les années 1910. Et par ailleurs, on voit malheureusement le raidissement vers davantage d'autoritarisme de grands pays tels que la Russie ou la Chine, ou en ce qui concerne la Chine, on peut même parler de premier totalitarisme du 21e siècle. Un totalitarisme numérique, mais c'est véritablement un qualificatif qu'on peut apposer aujourd'hui. Voilà, donc nos années 20, c'est à la fois les années 1910, les années 1930 et les années 1950.
Et vous parlez de guerre tiède.
Pourquoi ? Oui, parce que je pense que les... Comme au temps de la guerre froide, un certain nombre de cordes de rappel existent. Enfin, surtout, la dissuasion nucléaire, j'en ai parlé, qui a quand même contribué, même si ça n'a pas été la seule raison, à ce qu'il n'y ait pas de grand conflit entre l'Est et l'Ouest pendant ce qu'on a appelé la guerre froide jusqu'en 1990. Parce qu'il y a aussi une asymétrie qui n'existait pas, là pour le coup pendant la guerre froide, des alliances. Il y a un système d'alliances occidentales qui se renforce, qui se développe, qui se consolide, qui s'élargit. Et de l'autre côté, la Russie et la Chine, ils n'ont pas beaucoup d'alliés. La Russie en a de moins en moins et la Chine n'en a à peu près jamais eu, sauf la Corée du Nord. C'est le seul allié de défense formelle de la Chine. Et donc ce réseau d'alliances occidentales, à mon avis, il est aussi un facteur de dissuasion ou au moins de retenue. On voit que la Russie n'a jamais attaqué militairement un pays occidental. Elle les attaque d'autres manières, et que la Chine, pour sa part, avance très prudemment ses pions parce qu'elle ne veut pas entrer en choc direct avec les forces américaines en Asie. Et puis, il reste aussi l'interdépendance économique. Alors, c'est un énorme débat qui n'a jamais été complètement tranché, qui est complexe. Est-ce que quand on est interdépendant, on se fait moins la guerre? Oui, il y a de bonnes raisons de le penser dans certaines conditions. C'est d'ailleurs la base du projet européen. Cette interdépendance devait justement réduire à néant le risque de conflit ouvert entre les pays européens. Je crois que ça joue encore aujourd'hui. La grande question, c'est de savoir si ça jouera encore dans 10 ans, alors que nos économies sont en plein découplage, ou en tout cas que les liens entre les économies occidentales et l'économie chinoise et russe sont en train de se distendre.
Et justement, si on se projette dans le rapport de force mondiale, dans votre livre, vous expliquez que le choix de 4 pays va être fondamental sur leur positionnement géopolitique. Donc il s'agit de l'Ukraine, de la Turquie, de l'Iran et de l'Inde. Donc l'Ukraine...
C'est fait.
Voilà, c'est fait.
L'Ukraine, c'est fait. L'Ukraine ne reviendra pas dans l'orbite russe. La Turquie, c'est un pays qui semble aujourd'hui sous la houlette du président Erdogan connaître une dérive nationaliste et autoritaire. C'est pour ça que je la mets au nombre de ces 4 néo-empires qui étendent leur influence, voire leur territoire, et qui ont une revanche à prendre contre l'histoire. Mais
puisqu'ils ont perdu leur empire au début du
voilà, ils réécrivent l'histoire par ailleurs, etc. D'autres États ont perdu leurs empires et n'en font pas un plat pendant un siècle. Bon, c'est un autre sujet. Mais la Turquie, on verra ce qu'elle devient après M. Erdogan. Il n'est pas dit, il n'est pas écrit dans le destin de la Turquie, qu'elle poursuive cette dérive islamo-nationaliste, peut-être reviendra-t-elle dans la famille occidentale. L'Iran, qu'adviendra-t-il après le régime dit des Mollahs, qui est en fait aussi un régime militaire, hein. C'est un régime à la fois religieux et militaire. Et c'est une société qui suscite de l'espoir, puisqu'elle est, elle, éprise de liberté et désireuse de se tourner vers la famille des démocraties libérales.
Et avant 1979, elle était du côté de l'Occident.
Oui, mais encore faut-il rappeler que le Shah d'Iran était tout de même un dirigeant extrêmement autoritaire, et que ça n'était pas à l'époque une démocratie.
Mais un allié des États-Unis.
Mais à l'époque, tout était bon pour contrecarrer l'influence de l'URSS, et les États-Unis étaient alliés avec de nombreux régimes autoritaires. Donc le choix futur de l'Iran, et puis il reste l'Inde. L'Inde, vous aurez remarqué que tous ces États sont sur ce que j'appelle la ceinture centrale, c'est-à-dire entre le bloc eurasiatique et les restes du monde. Et puis l'Inde, le gros morceau, comme vous dites, premier pays du monde par la population depuis 2023. Un pays qui va compter de plus en plus, qui sera sans doute un relais de croissance économique mondiale. Aujourd'hui, l'Inde se dit toujours fidèle à ce qu'elle appelle non plus le non-alignement, mais le multi-alignement. Avant, c'était je suis ami avec personne, maintenant je suis ami avec tout le monde, pour faire simple.
Mais surtout avec la Russie, de par sa dépendance militaire actuellement.
Oui, mais elle ne tient pas à devenir aussi dépendante de la Russie que la Russie est dépendante de la Chine, par exemple. C'est une vieille relation qui est à la fois assise sur le non-alignement qui était favorisé par l'Union soviétique. C'était aussi une manière de contrecarrer l'influence américaine dans la région. Bon, aujourd'hui, sous la pression de ce que l'Inde estime être une menace chinoise, l'Inde s'interroge sur les choix qu'elle pourra avoir à faire. Je ne pense pas qu'elle devienne jamais un allié formel des États-Unis, mais le débat fait rage à Delhi sur le fait de savoir si cette posture de multi-alignement est tenable sur le long terme.
Alors, on parlait de l'Eurasie, parlons de la Russie pour vous. La Russie est à un carrefour de son histoire. Elle penche définitivement vers l'Asie et plus vers l'Europe, contrairement à l'Ukraine.
Je crois qu'elle est plus qu'à un carrefour. Elle est en train de faire une sortie de route. C'est triste à dire, parce que c'est un grand pays qui a apporté beaucoup à l'histoire du monde, mais désormais, son destin est d'être le partenaire mineur du couple sino-russe. Certains disent qu'on a poussé la Russie dans les bras de la Chine, mais il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine lui-même, il y a une dizaine d'années, disait qu'il voulait se rapprocher de plus en plus de la Chine. Et elle va devenir, cette Russie, de plus en plus dépendante de Pékin. Une relation qui n'est pas forcément très saine pour l'avenir de ce pays, mais le fait que l'Ukraine se sépare de la Russie fait que le vieil empire russe, il tenait sur deux jambes, une jambe européenne et une jambe asiatique. Et là, une fois que la jambe européenne est amputée d'une certaine manière, en tout cas, le Kremlin vit le départ de l'Ukraine comme une amputation, eh bien, la Russie renoue avec son passé impérial dans les temps de l'emprise tataro-mongole et donc avec son passé asiatique. Oui, donc je pense que ça sera une Russie de plus en plus asiatique.
Et dans cette guerre des mondes, une dernière question, qu'en sera-t-il de la rivalité États-Unis-Chine? Vous écrivez qu'une guerre à Taïwan est envisageable.
Oui, bien sûr, je ne suis pas le seul à le dire. La question est de savoir, premièrement, si on peut imaginer autre chose dans le monde des 30 prochaines années pour structurer les relations internationales de manière aussi importante. Et je pense qu'il est très difficile de trouver autre chose que la rivalité sino-américaine. En revanche, un accident est toujours possible. La dissuasion peut échouer. Et s'il y avait une guerre à propos de Taïwan, je pense que l'Amérique serait forcée, se sentirait forcée en tout cas, de défendre Taïwan.
En sachant qu'elle tomberait dans un choc des civilisations, enfin, ce serait...
Alors, je ne sais pas s'il faut appeler ça le choc des civilisations, mais il existe un certain discours aux États-Unis qui consiste à dire c'est quelque chose d'unique dans notre histoire. Notre rivalité principale aujourd'hui est avec un pays qui est d'abord un concurrent économique, mais qui, par ailleurs, appartient à une autre civilisation. Donc, je ne sais pas si ça serait le choc des civilisations, mais en tout cas, ça serait un choc systémique, comme on dit en relations internationales, assez inédit depuis longtemps. Il y en a eu d'autres dans l'histoire. La Russie contre le Japon en 1905, ce qui me permet de rappeler que quand la Russie perd des guerres, d'ailleurs, ça se passe mal pour le pouvoir politique. Je ferme la parenthèse. Je crois que le conflit à propos de Taïwan est très possible, mais reste improbable pour les années qui viennent. Même Xi Jinping, qui tient absolument à être celui qui réunifiera, entre guillemets, la Chine, sera extrêmement
prudent. Avec une date 2035 ?
La seule date qui compte, c'est 2049. C'est le centenaire de la République. Je n'en sais rien, mais je ne pense pas que Xi Jinping sera encore au pouvoir à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est une obsession des dirigeants chinois. En revanche, je ne pense pas qu'ils s'en prendront militairement à Taïwan pour forcer l'unification sans être, entre guillemets, sûr de réussir. Mais vous savez, les pays qui engagent une opération militaire majeure en pensant être sûr de réussir, ça ne marche pas toujours comme ils l'ont prévu, confère d'ailleurs la guerre en Ukraine.
Et cette rivalité, si elle dégénérait, impliquerait bien sûr d'autres blocs du monde, notamment l'Europe.
Oui, si vous avez aimé la guerre d'Ukraine, vous adorerez la guerre sino-américaine à propos de Taïwan. Je plaisante, bien sûr, mais...
Ça a été le réveil géopolitique pour l'Europe, la guerre en Ukraine.
C'est vrai. Ouais. Et l'Europe, maintenant, commence à se dire, mais attention, si jamais il y avait une guerre en Asie de l'Est, ça me concernerait directement, non pas parce qu'on a besoin d'intervenir sur le plan militaire, mais parce que les répercussions économiques seraient phénoménales pour l'ensemble de la planète. Et donc nous avons, nous Européens, intérêt à contribuer modestement à essayer de dissuader la Chine de s'en prendre à Taïwan, par exemple, en lui faisant comprendre que les sanctions que nous prendrions à ce moment-là seraient beaucoup plus fortes et beaucoup plus douloureuses pour son économie, pour l'économie de la Chine, que ça n'a été le cas pour la Russie lorsqu'elle a envahi l'Ukraine.
Merci Bruno Tertrais.
Merci à vous.